Bonjour, tout l'équipage souhaite la bienvenue à bord à toute l'équipe d'Europe 1 et d'Au cœur de l'Histoire.
Et oui, car c'est une émission exceptionnelle que vous nous proposez aujourd'hui, Franck Ferrand. Vous n'êtes pas en studio à mes côtés, rue François 1er à Paris. Vous avez pris de la hauteur, beaucoup de hauteur. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce que nous allons vous faire vivre aujourd'hui, c'est un moment historique pour tous les amoureux de l'aviation. Nous venons en effet d'embarquer à bord du géant des airs, de ce Boeing 747 qui, dans l'esprit des gens, est devenu synonyme de voyage au long cours. Car, cher Anissa, figurez-vous que ce vol au-dessus de la France et de son patrimoine, ce vol est le dernier, le tout dernier d'un Boeing 747 d'Air France. Oui, après 45 ans de bons et loyaux services, le 747 va être remplacé dans la flotte d'Air France par son descendant, le Boeing 777, et par son concurrent, l'Airbus A380. À bord avec nous, le président d'Air France, évidemment, ainsi que l'hôtesse de l'air qui a baptisé le premier 747, un ancien pilote qui a fait une grande partie de sa carrière à bord de ce Boeing, le directeur des ventes de General Electric, le constructeur des moteurs de Boeing, et puis, last but not least, celui sans qui une émission aéronautique n'aurait pas vraiment la même saveur, Bernard Chabert, qui va nous faire l'amitié de nous suivre tout au long de cette émission à 30 000 pieds d'altitude. Alors, de l'altitude, nous en avons pris tout à l'heure. Nous avons survolé Paris et c'était d'ailleurs un moment tout à fait extraordinaire puisque un rayon de soleil nous a permis d'avoir un aperçu de la capitale tout à fait saisissant. Et puis, en ce moment, nous sommes en train de quitter la Bourgogne. On est au-dessus du Rhône à peu près. On ne tardera plus à atteindre les Alpes. Bientôt, nous serons au-dessus de Genève. Alors, souhaitons-nous bon vol et bonne émission.
Bienvenue à bord d'Europe 1 Airlines. Aujourd'hui, votre capitaine est Franck Ferrand et pilotera au cœur de l'histoire jusqu'à 15h.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Depuis le 3 juin 1970, Air France a transporté à bord de ses 747 plus de 250 millions de passagers. On comprend qu'aujourd'hui, nous fermons le cortège en quelque sorte. Et j'imagine que pour vous, Frédéric Gaget, qui êtes président d'Air France, vous ressentez un pincement au cœur.
Oui, c'est un pincement au cœur. Pas de la tristesse, mais de la nostalgie pour ce géant des airs qui a contribué pendant un demi-siècle, en fait.
C'est ça. Deux générations, en fait.
Deux générations participer à l'histoire de l'aviation, mais aussi, je crois, à l'histoire d'Air France. Et puis, c'est un moment encore plus nostalgique pour nos équipages, les pilotes, les hôtesses, les stewards.
Il y a tous ceux qui sont à bord de cet avion et tous ceux qui auraient aimé y être et qui nous accompagnent par la pensée, d'une certaine manière.
Il y en a beaucoup qui ont servi sur ces avions. On en a vu quelques-uns au départ de ce vol.
Qui sont les passagers aujourd'hui, à peu près ?
Alors, il y a à la fois des gens de la compagnie qui sont présents, des hôtesses, des pilotes, des stewards qui ont servi dans cet avion et qui nous ont rejoints pour ce dernier vol. Et puis aussi, on a proposé ce vol au grand public et on a été inondé de demandes, plusieurs milliers de demandes pour ce vol de gens qui aiment l'aviation, qui aiment les avions et qui voulaient donner un dernier adieu à ce géant des airs qui, de fait, Bernard Chabert le dira mieux que moi tout à l'heure, a été une vraie révolution dans le transport aérien mondial.
Alors j'espère que tous ceux qui justement n'ont pas pu monter pour ce dernier vol nous écoutent en ce moment même et sont avec nous d'une certaine manière au-dessus de la France. Alors on reconnaît le professionnel Bernard Chabert. Vous avez déployé sur vos genoux la carte de ce vol et on fait vraiment le tour de la France. C'est un tour de France en fait. Ça va plus vite qu'à vélo bien entendu. Hein.
Ça va plus vite qu'en vélo. Ça va durer 2 heures et quelques. Et c'est un tour de France qui, on passe pas tellement dans le nord. Mais enfin là non. Actuellement, on est au moment où on parle. On vient de passer Annecy. On a à gauche là-bas un peu plus loin, Genève. Malheureusement, il y a une couche de nuages pendant le premier tiers du vol, à peu près, en gros jusqu'à Marseille. Après, ça va commencer, on va remonter vers Toulouse, puis vers Bordeaux, puis on va suivre la côte atlantique, traverser la Bretagne, Mont-Saint-Michel et retour à Paris.
Je sais que vos fans Bernard Chabert nous écoutent aujourd'hui, mais pour tous ceux qui connaissent moins l'aviation, il faut peut-être rappeler l'essentiel. C'est la taille de cet incroyable avion. C'est un très gros porteur, hein.
Le 747, c'est un avion qui est né déjà au début des années 60 À l'époque, les avions de long courrier étaient des avions qui transportaient 150-180 passagers, les Boeing 707, les DC-8 de Douglas. Et puis, c'était l'époque aussi des personnages un peu...
Hauts en couleur, on va dire.
Pire que hauts en couleur, c'était des empereurs.
Des caractériels.
À l'époque, la plus grande compagnie aérienne américaine était Pan American Airways. Et Boeing était donc un énorme constructeur qui fournissait principalement les militaires américains en bombardiers. C'était la guerre froide. Et donc, les gens de Pan American, le président était Juan Trippe, un personnage à la Howard Hughes. Et le président de Boeing était Bill Allen. Et
alors, on va parler d'Howard Hughes justement tout à l'heure. Donc, ça tombe bien. On va le resituer dans son contexte, bien entendu.
Donc, ces deux bons hommes, ces deux grands personnages qui étaient plus que sexagénaires à l'époque, avaient une passion commune qui était la pêche. Et un jour, ils ont loué le yacht de John Wayne. Ils sont allés dans un fjord à proximité de Seattle, pêcher ensemble. Ils pêchaient ensemble régulièrement. Ils étaient en train de tourner leur moulinet et ils parlaient évidemment d'avions et du gros avion futur que tous les deux envisageaient, mais sans très très bien savoir s'il était faisable pour le constructeur et s'il était exploitable pour Juan Trippe et Pan American. Et finalement, à la fin de la discussion, et toujours en tournant leur moulinet, il y a Juan Trippe, le patron de Pan Am, qui se tourne vers Bill Allen, le patron de Boeing, et qui lui dit « Écoute, si tu le fais, je te l'achète. » Et du tac au tac, il y a le patron de Boeing, Bill Allen, qui lui répond « Si tu l'achètes, je te le fais. » Ils n'ont pas signé de contrat. Ils n'ont pas signé de contrat. Et uniquement là-dessus, ils se sont tapés la main. Et ils s'y sont mis et ils ont fait naître cet avion qui est plus qu'un avion à fête des sociétés.
Ils ont révolutionné le transport aérien, c'est ce qu'il faut dire, Frédéric Gaget. C'est que grâce au Boeing 747 à la toute fin des années 60, c'est le début de ce qu'on appelle la démocratisation du transport aérien.
Non, l'idée du président de Pan Am, c'était bien une demande faite à Boeing de faire un avion plus gros.
Et, voilà.
Et donc l'idée, c'était bien de baisser le coût pour les voyageurs et de viser cette démocratisation du transport aérien. En même temps, je me tourne vers Bernard, il y avait aussi l'idée de rendre service à l'époque à l'armée américaine.
Eh oui. Hein,
puisqu'il y avait également des envois de militaires un peu à travers le monde.
L'idée oui, il y avait une dimension stratégique. Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine guerre froide, bien entendu.
Il y avait cette dimension stratégique très particulière.
Et puis, il y a une dimension économique qu'on a parfois tendance à oublier. C'est le transport de marchandises aussi. Car bientôt, le Boeing 747 va devenir un énorme cargo, un avion cargo. Et ça, ça va révolutionner l'économie mondiale, Bernard Chabert.
Il a révolutionné l'économie mondiale à tout point de vue. Si on prend le nombre de passagers qui étaient transportés à l'époque de la genèse du 747, une première moitié des années 60, on parlait de quelques millions de passagers, quelques petites dizaines de millions de passagers transportés par an par les compagnies aériennes. Je crois qu'Air France, à l'époque, devait avoir une flotte d'une quarantaine d'avions, à peu près. Et d'un seul coup, avec le 747, on a fait muter le transport aérien. Et l'an dernier, on a transporté 3,5 milliards de passagers. Et donc, on a changé le monde.
Alors, avant d'aller plus loin dans l'histoire de ce Boeing 747, je vous propose de revenir sur une des figures les plus connues parmi les grands avionneurs de ce milieu du XXe siècle. C'est même la star des avionneurs, si je puis dire. C'est évidemment Howard Hughes. Je vous raconte son histoire en quelques minutes. Et puis, nous nous retrouvons tous pour continuer à évoquer la saga du Boeing 747 et nous serons notamment avec l'hôtesse de l'air qui a baptisé, je dis bien, le tout premier Boeing 747 à être jamais sorti des ateliers.
Veuillez régler votre poste sur Europe 1, redresser votre siège et écouter attentivement Franck Ferrand. Merci de votre attention.
Et c'est une émission exceptionnelle, en effet, que vous nous proposez cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, puisque vous survolez actuellement la France à bord d'un Boeing 747 d'Air France pour son tout dernier vol. Vous allez nous raconter cet après-midi le destin, l'incroyable vie d'Howard Hughes, le constructeur aéronautique.
Oui, Anissa, je vais venir dans un instant à l'histoire d'Howard Hughes, bien entendu, je vous l'avais promis, mais il faut que je demande à Lorena, qui est assise juste à côté de moi, où nous sommes exactement. On fait un survol assez étonnant, là, en ce moment même.
Exactement. Alors, on vient d'avoir le Mont Blanc sur notre gauche et nous survolerons dans une dizaine de minutes la barrière des écrins.
Oui, donc on est au-dessus des Alpes. Ça fait partie du programme, si je puis dire. Nous sommes en train de dérouler pendant tout ce vol, ce dernier dernier vol d'un Boeing 747 d'Air France. Nous sommes en train de dérouler le paysage français et notre si riche patrimoine. Alors, on parlait tout à l'heure de Juan Trippe qui a été le père, en quelque sorte, avec Allen, l'un des deux pères de ce Boeing 747. Il n'aimait pas, disons-le, Howard Hughes, qu'il considérait comme une personnalité énigmatique. Il le considérait même comme un excentrique. Il l'a dit clairement. C'est vrai qu'Howard Hughes est un drôle de bonhomme, un touche-à-tout très ambitieux qui aura totalement révolutionné l'aéronautique. Un homme étrange, surtout dans les dernières années de sa vie, j'y viens. Il était né déjà le soir de Noël, ça ne s'invente pas. Il était né un 24 décembre, le 24 décembre 1905, au Texas, à Houston, dans une famille extrêmement fortunée, parce que son père avait eu une idée étonnante. Il avait inventé un système de forage pétrolier qui permettait de tirer du sol plus de 1000 barils de pétrole par jour. Inutile de vous dire que tous les pétroliers texans, et d'autres d'ailleurs, se sont jetés sur l'invention et qu'ils ont fait du père d'Howard Hughes l'un des hommes les plus riches des États-Unis. C'était aussi, disait Howard, l'un des plus authentiques individualistes forcenés. Et puis c'est lui qui a instillé en moi le désir d'accomplir quelque chose par moi-même, de ne jamais compter que sur moi-même. Howard Hughes découvre tôt l'aviation, il a 14 ans à l'occasion d'un baptême de l'air, ça se faisait beaucoup. C'était d'ailleurs à bord d'un hydravion, et on peut dire que l'hydravion va le suivre toute sa vie et toute sa carrière. C'est ça qui le passionnait, il est fasciné d'emblée, il obtient très vite de quoi prendre des leçons, il passe son brevet de pilote, etc. Et lorsque son père meurt, il a 18 ans lui, et d'ailleurs sa mère était morte juste avant, Howard Hughes décide d'abandonner ses études et de reprendre la Hughes Tool Company. Il n'y a aucun obstacle là, hein. Rien ne peut l'arrêter. Il n'est pas majeur, peu importe, il aura les autorisations nécessaires. Il ne possède qu'un quart, 25% des parts de la société. C'est pas grave, lorsqu'il sera reconnu majeur, il disposera des 50% de sa mère et les actionnaires à ce moment-là deviendront minoritaires. Tout ça va s'arranger, ça fonctionne. Howard Hughes, qui marche déjà dans les traces de son père, réussit à devenir le propriétaire de l'ensemble de la compagnie. Il épouse à ce moment-là Ella Rice, une jeune femme de 19 ans, une très bonne famille de Houston, et il décide lui-même de quitter le Texas. Le Texas n'est pas à la mesure de son ambition. Lui part pour la Californie, il s'installe à Hollywood. Ça n'est pas un hasard car il est déjà passionné par le cinéma. En 1932, il fonde sa compagnie, la Hughes Aircraft, et il veut tout de suite que ses avions se distinguent par la vitesse. C'est lui qui dessine tout, jusqu'au moindre détail. Il ne fait pas confiance à ses collaborateurs. Il a une sorte de don. Il comprend, notamment pour réduire la résistance à l'air, il va supprimer, si l'on peut dire, tout ce qui dépasse. Jusqu'alors, les avions avaient beaucoup de boulons, de rivets, etc. Eh bien, il remplace ça par des rivets plats. Il construit un train d'atterrissage rétractable. C'est lui qui va créer le premier cockpit clos. Bref, il joue un rôle non négligeable dans l'évolution de ces avions des années 30. Reste encore à faire voler ses créations. En 1935, à bord d'un appareil, le H1, Hughes part de Santa Ana, près de Los Angeles. Il bat le record de vitesse du français Raymond Delmotte. Il atteint les 567 km/h. Il est donc à ce moment-là aviateur de l'année. Et trois ans plus tard, à l'été 38, à bord de son Lockheed 14 Super Electra, il réalise un tour du monde en 3 jours, 19h14. Howard Hughes, à ce moment-là, on peut le dire, est très célèbre. Il devient une sorte de héros. On le voit remonter. Il a le droit à un honneur de New York. Il remonte Broadway, debout dans une Cadillac décapotable, sous une pluie de ses papiers multicolores et de ses confettis que les Américains ont l'habitude de jeter à la face des héros. On peut lire sur des bandes d'étoffe en lettres d'or ce jour-là. Honneur à Howard Hughes, vainqueur du Tour du Monde. Le Congrès va lui décerner une médaille, mais il la refuse, parce que ce que j'oublie de vous dire jusqu'ici, c'est qu'il a un caractère impossible. Il fait partie de ces caractériels dont nous parlait Bernard Chabert à l'instant. Howard Hughes a fait ses débuts au cinéma. Il a produit Two Arabian Nights en 1927. Il est passé ensuite derrière la caméra pour réaliser son premier film, Les Anges de l'Enfer. Ça, c'était en 1930, avec, comme par hasard, un certain nombre de séquences aériennes. Dès lors qu'Howard Hughes est dans un projet, il faut évidemment que ça décolle, si je puis dire. Il est déjà, je vous l'ai dit, très célèbre. C'est un homme quasiment tout puissant. Il joue les Playboys. On le voit au bras des plus belles actrices, des plus belles femmes du moment. Il sera notamment l'amant de Katharine Hepburn, vous imaginez. Certains sont même prêts à annoncer leur mariage.
Et pourtant, Howard Hughes affiche partout des goûts très simples. On le voit avec ses... Il est très connu pour ça. Il porte toujours des espèces de complets froissés, tire-bouchonnés. Il se rend à de grandes réceptions avec des sandales de toile. Il ne porte pas toujours la cravate, etc. Mais il n'empêche, c'est peut-être aussi cette image de l'homme extrêmement décontracté qui va faire son incroyable notoriété. Au moment où les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale, on peut dire qu'Howard Hughes est un homme comblé et qu'il est, passez-moi l'expression, sur un petit nuage.
Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce vol. Vous voyagez en compagnie d'Europe 1 et de Franck Ferrand.
Et vous n'êtes pas en studio à Paris, Franck Ferrand, mais bien au-dessus de la France. Franck, vous nous faites vivre sur Europe 1 le tout dernier vol du Boeing 747 d'Air France. Et pour l'occasion, c'est Howard Hughes qui est à l'honneur dans Au cœur de l'histoire. Alors après avoir créé sa compagnie, il va en racheter une célèbre.
Oui, Anissa, c'est en 1938 qu'Howard Hughes rachète la Trans World Airlines, la TWA. Il décroche à ce moment-là de nombreux contrats pour le transport du courrier postal, ce qui est la grande affaire de l'aviation, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Il a également la concession de liaison entre les États-Unis et l'étranger, et ça c'est fondamental. Ça va placer très vite la TWA au second rang des compagnies aériennes américaines, juste derrière United Airlines. Et on peut dire qu'à cette époque-là, on est en train de chercher des avions de plus en plus importants, de plus en plus grands. C'est ce qui nous rapproche, c'est ce qui nous ramène à notre affaire du Boeing 747. Une douzaine de pays déjà s'intéressent à son fameux hydravion. Je vous en avais parlé du H1. Parmi les pays, il y a le Japon qui s'inspirera d'ailleurs de ce modèle pour construire des avions utilisés contre les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Hughes apporte des idées. Il rêve d'un appareil nouveau susceptible de transporter plus de 50 passagers, ce qui à l'époque est déjà une révolution. Il voudrait que ses passagers soient à l'aise dans une cabine pressurisée, luxueuse, qu'ils volent à une vitesse 4 fois supérieure à celle des avions DC-3 qui à l'époque transportent le public. Le fameux modèle qui va sortir de cette ambition-là, c'est le Constellation, un des avions les plus célèbres dans ses débuts de l'aviation commerciale. En 1943, le Constellation relie la Californie à Washington en moins de 7 heures. Et pour les Américains, ça aussi c'est très important. Entre parenthèses, c'est aussi le début de la fin pour le transport ferroviaire qui avait été constitutif même des États-Unis. Enfin ça nous entraînerait un peu loin. La TWA, vous l'avez compris, est en plein essor, ainsi que la Hughes Aircraft Company. En 1942, en plein dans la Seconde Guerre mondiale, et juste quelques semaines après l'entrée des États-Unis dans cette guerre, Hughes signe un accord avec la Maison-Blanche pour la construction d'un hydravion gigantesque. Et c'est ce que nous disait tout à l'heure Frédéric Gaget, c'est que dans cette course à des avions de plus en plus grands, entre des considérations stratégiques majeures, bien entendu, il y a des volontés militaires. L'idée de Hughes, c'est de créer donc cet hydravion gigantesque qui pourrait transporter plus de 750 soldats afin de remplacer des cargos qui souvent sont victimes des sous-marins allemands à l'époque, bien entendu. Cet hydravion, ce sera le H4 Hercule, surnommé Spruce Goose, l'oie en pin de l'Oregon. Pourquoi ? Parce qu'il est en bois, tout simplement. Il a 8 moteurs, une envergure de 97 mètres et il est haut comme un immeuble de 5 étages. Aujourd'hui, ça ne nous impressionne plus tellement. Évidemment, nous qui sommes à bord d'un Boeing 747, je dirais même que ça ne nous impressionne pas du tout. Mais dites-vous qu'à l'époque, ça paraît complètement invraisemblable. Le problème de cet appareil, c'est que le temps de le préparer, de le mettre en service, etc., il arrivera trop tard, si je puis dire, 2 ans trop tard, le 2 novembre 1947, Hughes pilote seul à bord son hydravion qui s'élève à 20 mètres. C'est sa dernière grande réussite sur le plan aéronautique. Il faut vous dire qu'un an plus tôt, il a failli se tuer avec un appareil qui s'est écrasé sur le toit d'une maison à la périphérie de Los Angeles. L'appareil en question, c'était le XF-11. Hughes va prendre ses distances à partir de ce moment-là avec le monde de l'aéronautique et se consacrer à la réalisation et à la production de films. Et dans ce domaine, comme dans le domaine aéronautique, il ne laisse rien au hasard. Par exemple, pour le film The Outlaw, le banni, en 1943, il n'hésite pas à exiger jusqu'à 15 fois la même scène. C'est-à-dire qu'on rejoue dans une même journée 15 fois la même scène afin de mettre au mieux en évidence la poitrine plantureuse de sa jeune actrice qui n'est autre que Jane Russell. Il invente même, pour l'occasion, un soutien-gorge qui va faire appel à ses bureaux d'ingénieurs. Vous savez, tout doit être aérodynamique, si je puis dire, chez Howard Hughes. Bon, je ferme cette parenthèse. Tout doit passer par lui, en tout cas. C'est un homme égocentrique, disons-le. Un jour, une nouvelle production est mise en chantier dans les studios de la RKO, qu'il a racheté en 48. Le metteur en scène doit démonter les 5 décors du nouveau film, 200 tonnes en tout, pour les transporter, pour les montrer à Hughes, qui ne veut pas faire le voyage jusqu'au tournage. Eh bien, puisque lui ne se rend pas sur place, on va déplacer tous les décors pour les lui montrer. Vous voyez qu'on est quand même en présence de quelqu'un d'un peu particulier. Mais c'est grâce à lui que, à l'instar de Jane Russell, on va voir s'envoler les carrières d'actrices comme Jean Harlow, Lana Turner, Ginger Rogers, Ava Gardner, bien entendu, etc. Hughes mène tout son petit monde à la baguette. Il n'a pas de considération particulière pour ses employés. Il peut se révéler d'ailleurs incroyablement avare malgré son immense fortune. Par exemple, on l'a vu demander à un homme avec qui il négociait un contrat de le rappeler avant 18h parce que après cette heure-là, on passait au tarif de nuit. Oh, je pense qu'il y avait beaucoup de pauses dans ce genre d'attitude et de posture. Mais enfin, ça vous donne une idée du personnage. Depuis 1946 et depuis l'accident d'avion dont il garde des séquelles, Howard Hughes a tendance à user et à abuser de la codéine. Il se drogue pour calmer ses douleurs. Il va se montrer à partir de là de moins en moins public. Il faut vous dire qu'il va développer une phobie terrible de tous les microbes, de toutes les saletés, etc. Qu'il a besoin de vivre littéralement en chambre stérile. C'est quelqu'un qu'on ne voit plus, qui vit intégralement reclus à partir de 1966. Il vit dans un hôtel de Las Vegas, puis dans un hôtel d'Acapulco au Mexique. Alors, pour communiquer ses ordres à tous ses assistants, qui d'ailleurs sont tous choisis au sein de la secte des Mormons, c'est les seuls en qui il ait confiance, eh bien, il est obligé de passer même par le téléphone. Certains l'appellent à ce moment-là le fantôme du capitalisme américain, et c'est cette retraite, c'est cette mise à l'écart qui va l'empêcher finalement de participer pleinement à la grande aventure de l'aviation commerciale dans les années 1950 et 1960.
Nous sommes actuellement à une altitude de 10 000 pieds et vous écoutez bien au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Europe 1, 14h, 15h.
Au cœur de l'histoire.
Et pour le dernier vol du Boeing 747 d'Air France, Franck Ferrand survole la France aujourd'hui avec à vos côtés Franck-Frédéric Gagé, président directeur général d'Air France, Bernard Chabert, journaliste, pilote et président de la chaîne de télévision Aérostar, chaîne aéronautique et spatiale, André Grospeau, ancien pilote qui a participé au lancement du 747-400, et Jacqueline Pajot, hôtesse de l'air qui a baptisé le tout premier 747.
Nous sommes en train d'arriver sur la Camargue en ce moment. Vous voyez que ça va quand même vite. C'est extraordinaire de voyager comme ça en Boeing 747. Et figurez-vous qu'à 30 000 pieds, on fait des rencontres assez extraordinaires et très amicales. Bonjour Nelson Montfort.
Bonjour cher Franck, bonjour à vous tous. C'est un grand plaisir d'être à votre micro.
C'est un moment d'émotion que nous vivons. C'est quand même extraordinaire d'être dans ce tout dernier vol d'un Boeing 747 d'Air France.
Ouais, c'est une dernière qui va rester longtemps dans notre cœur, je le pense, effectivement. Oui.
Et maintenant, le soleil est au rendez-vous en plus.
Mais toujours sur votre émission. Vous savez que je suis un fidèle.
Nous sommes gâtés par le paysage aussi, bien entendu. C'est-à-dire que nous sommes au cœur de l'appareil, je l'explique pour nos auditeurs. Oui. Mais vous qui êtes confortablement installé à côté d'un hublot, vous en prenez plein les yeux.
Je vous raconterai à la fin.
Merci beaucoup, Nelson, d'être venu nous faire ce petit clin d'œil. Je suis ravi d'accueillir Jacqueline Pajot. C'est vous, madame, qui, à la fin des années 1960, avait fait partie de celles qui ont baptisé le tout premier Boeing 747. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment incroyable ?
Alors effectivement, j'ai été contactée par ma chef hôtesse pour me demander si j'acceptais de partir à Seattle pour le roll-out du 747. J'avoue que je ne savais pas très bien
ce que c'était.
J'avais 4 ans de compagnie. Je volais à l'époque sur Caravelle et 707 et je suis partie. Et là, j'ai été prise en charge à l'américaine par l'organisation de Boeing et j'ai rencontré mes 25 co-marraines.
Co-hôtesses, co-marraines.
Oui, co-marraines, puisque Boeing avait invité une représentante de chacune des compagnies qui avait acheté l'avion.
Alors on est à Everett, là, c'est-à-dire juste
on
à côté de Seattle, au nord de Seattle.
C'est à une quarantaine de kilomètres de Seattle. Et il y a eu des répétitions, bien entendu. Et on devait monter sur une estrade qui longeait l'appareil. Et nous avions chacune une bouteille de champagne. Il fallait à un prendre la bouteille de champagne, à deux la balancer par l'épaule et à trois taper sur l'avion. On avait fait ça plusieurs fois. Et puis après, le jour J, nous étions toutes devant les hangars, à côté du président Allen. Et puis d'un seul coup, les portes du hangar se sont ouvertes. Et très lentement est apparu le nez de l'avion.
Incroyable.
Le nez de l'avion, le fuselage avec une jolie bande rouge sous les houblots. Et tous les logos des compagnies sont apparus sur le fuselage.
L'avion. Les Américains ont le sens du spectacle. Hein, ça
tout à
être
fait.
Un moment.
Tout à fait, c'était très émouvant. Et j'ai regardé M. Allen. Et M. Allen, qui n'était pas très très jeune à l'époque, regardait cet avion sortir du hangar comme si c'était un père de famille qui assistait à la naissance de son premier-né. C'était magnifique. Vraiment extraordinaire.
Et cet avion, il était d'une taille tellement inhabituelle que vous deviez tous être quand même assez sidérés.
On était sidérés, mais les gens qui étaient là, il y avait à peu près une dizaine de milliers de personnes qui avaient été invitées. Et tout le monde était sidéré, tout le monde a applaudi. C'était vraiment une fête extraordinaire. Et l'avion s'est donc posé devant nous. L'estrade est arrivée et nous sommes montés sur l'estrade le long du fuselage. J'étais la deuxième après Air Canada. Alors là, il y a eu une espèce de confusion. Quand on a entendu un, on a cru qu'il fallait prendre la bouteille.
Ah oui,
et
avez...
en fait, c'était une répétition et tout le monde n'a pas compris. Et je crois que, d'après ce qu'on m'a dit après, puisqu'il y a eu des films, un film tourné, j'ai été la première à taper avec ma bouteille.
C'est donc
sur...
bien vous qui avez baptisé le Boeing 747.
Je crois que oui.
C'est tout à fait extraordinaire. Oui. Ça doit vous faire un effet extraordinaire d'être dans ce dernier vol d'un Boeing d'Air France, d'un Boeing 747.
C'est très émouvant. Très émouvant.
Vous avez fait une partie de votre carrière
bien
sur cet
sûr,
avion. Nous allons y venir dans un instant. Il faut peut-être cet avion, Bernard Chabert, l'expliquer aux gens, dire à peu près à quoi il ressemble. Ces trois niveaux, ces trois étages en quelque sorte. C'est assez peu habituel ça bien sûr.
C'est un paquebot. Disons que principalement sur les avions d'avant, il y avait un couloir central et puis des sièges à droite du couloir et à gauche du couloir et puis les hublots. Et sur celui-là, bien, il y a deux couloirs. Il y a une rangée de sièges au milieu, il y a une rangée de sièges à gauche, une rangée de sièges à droite. Et puis il y a une hauteur sous plafond.
C'est
et c'est un avion qui, d'abord, la première chose...
Hein. Ouais.
Ben, quand on monte à l'intérieur du 747, ce qui est stupéfiant, c'est le volume de cet avion. La chose la plus stupéfiante, c'est de monter dans un cargo quand il est vide, parce que là, on a l'impression d'être dans la salle des pas perdus de la gare Montparnasse. C'est colossal, le volume de cet avion. Et à l'époque, en plus, venant du 707 ou voire de la Caravelle, ça devait être quelque chose
de... Il y a des très grandes soutes, il faut le dire.
Ouais.
Il y a donc cette gigantesque cabine cloisonnée, etc., en fonction d'ailleurs des aménagements, parce que chaque compagnie fait ses propres aménagements. Il y a un décorateur pour Air France, là, en l'occurrence, hein, bien entendu.
Ben, bien sûr, chaque compagnie a son décorateur, mais au départ, dans la genèse de l'avion, un grand décorateur américain de l'époque, M. Del Giudice, avait rêvé le 747. Il avait même mis une salle de cinéma à l'avant avec des gradins en descente parce qu'il est tellement grand qu'on pouvait se permettre ce genre de choses.
Et puis
c'était l'avion
de
tous les délires.
Pour les voyageurs de business, on prend le petit escalier qui mène dans une sorte de cabine annexe qui, elle, est au-dessus de l'autre et qui donne sur le cockpit. Donc le cockpit est très en hauteur. C'est assez étonnant. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, Jacqueline Pajot, lorsque vous avez commencé à servir comme hôtesse d'Air France à bord du 747?
La grandeur de l'appareil, bien entendu. Vous parliez de la hauteur. Après la Caravelle, c'est évident que c'était immense. Mais on n'avait pas cette impression qu'on a dans le cargo, comme vous disiez tout à l'heure, où les séparations des galets de cuisine, des blocs toilettes, faisaient que c'était des pièces à part, des grandes pièces, effectivement. Mais on n'avait pas l'impression qu'on a dans le cargo où c'est une seule pièce. Et puis la facilité avec laquelle il avait été aménagé pour nous.
C'est ça. On avait pensé au personnel navigant.
Exactement. Et le service était favorisé, ne serait-ce que par les deux allées et puis par les galets dans la cabine entière. C'était beaucoup plus facile pour nous.
Vous expliquiez les galets.
Les galets, c'est nos cuisines.
Voilà, exactement.
Nos cuisines.
Je ne résiste pas au plaisir de demander à Lorena où nous en sommes. Là, qu'est-ce que nous sommes en train de survoler? Parce qu'au milieu où nous sommes, ce n'est pas très facile à voir, Lorena.
Alors, nous avons dépassé Montpellier et nous sommes entre Montpellier et Toulouse.
Ça va à une vitesse folle. Si ça continue, on sera à Paris avant même d'avoir fini l'émission. l'émission. Bernard Chabert, je parlais de ce cockpit qui est placé très en hauteur. Ça doit être un peu particulier, ça, pour les pilotes, bien entendu.
Oui, parce que finalement, on a l'impression que d'un seul coup, on a rétréci les aérodromes. Quand on n'a jamais piloté un 747 et qu'on vient d'un avion normal, on a une vision perspective de la piste en particulier. Elle est relativement large. Mais dans le 747, quand on est en haut au cockpit, on a l'impression qu'elle est minuscule.
Et je suis allé dans le cockpit pour faire le teaser, comme on dit, hein, la bande-annonce de l'émission tout à l'heure. J'étais frappé par sa très petite surface. C'est-à-dire que l'avion est tellement grand qu'on s'attendrait à ce que le cockpit soit grand. Non, ça n'est pas le cas.
Ce qui est amusant, c'est que c'est un cockpit presque intimiste. C'est pas un gros poste. On a fait des cockpits beaucoup plus vastes aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qui donne l'impression de, très rapidement, c'est un avion qu'on adore quand on le pilote.
Ce qui était votre cas, vous l'avez piloté un jour.
Oui, j'en avais fait un peu chez Boeing. C'est un géant sympathique. Au début, il impressionne. On l'escalade, on monte des étages, on se dit où on va, c'est un navire. Mais finalement, après, quand on commence à mettre la main dessus et tout, on se rend compte que c'est un avion gentil. Jacqueline le disait, pour l'équipage commercial en bas avec les passagers, c'est un avion amical. Mais pour les équipages techniques, ceux qui font voler l'avion, c'est la même chose. Oui. C'est un avion d'une gentillesse incroyable eu égard à sa taille.
Vous seriez d'accord avec cette définition, André Gropot? Je suis ravi que vous nous rejoigniez. Vous avez passé des milliers et des milliers d'heures dans ce cockpit du Boeing 747, puisque vous êtes ancien pilote d'Air France. Hein.
Oui, j'ai eu deux périodes. Une période en copilote pendant 7 ans, à la fin des années 70, et ensuite 14 années de 90 à 2004 comme commandant de bord.
Et vous assuriez la liaison avec les équipes techniques de Boeing, justement. Donc c'est vous qui, d'une part, informiez vos collègues des nouveautés techniques et en même temps, vous faisiez remonter les éventuels problèmes vers Seattle.
Oui, absolument. À l'époque, maintenant ça a changé un peu à Air France. À l'époque, je travaillais dans un service qui collectait tous les problèmes techniques de l'avion. Uniquement les techniques. Et mon boulot était justement de faire remonter ça chez Boeing, de trouver des solutions et faire redescendre ensuite aux équipages les modifications éventuellement qui avaient pu être apportées à l'avion.
Vous êtes d'accord avec ce que disait Bernard Chabert sur le confort qu'il peut y avoir à utiliser cet appareil?
Oui, bien sûr. Cet avion, vous pouvez en parler à n'importe quel pilote, il vous dira la même chose. C'est un avion merveilleux. Au cockpit, là-haut, on est vraiment chez nous. Petit appartement, les trois sièges avec les deux couchettes, toilettes, tout ça, on est vraiment bien. Le seul problème, c'est que maintenant, pour des raisons de sécurité, la porte est vraiment verrouillée et donc l'accès un peu plus fermé.
Le commandant Blanchard, qui est en ce moment même au pilotage, me disait tout à l'heure qu'à chaque fois qu'il est descendu d'un Boeing 747, il s'est retourné pour le regarder, comme s'il ne s'en lassait pas d'une certaine manière.
Oui, je crois que moi aussi, chaque fois qu'on descendait, on regardait. Tellement grand, tellement beau, majestueux.
Oui, majestueux, c'est une sorte de pachyderme aéronautique, on peut dire, Bernard Chabert. Et en même temps, d'une très très grande précision. Vous savez, moi qui aime bien le cirque, je sais à quel point les éléphants de cirque sont capables de faire des mouvements au centimètre près. C'est un peu la même chose avec le Boeing, hein, finalement.
Pachyderme, c'est presque un terme qui le desservirait. C'est vrai que sur le dimension, etc., moi je préfère dire que c'est un géant.
Oui.
Il est géant dans tous les sens du terme. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que cet avion a changé le monde. Parce qu'avant, pour voyager, ça coûtait cher. À partir de l'arrivée de cet avion, pratiquement n'importe qui sur Terre a pu rêver et surtout réaliser ses rêves d'aller de l'autre côté du monde.
Mais
pour voir
ça.
Comment ça fait. C'est l'avion qui a transformé l'humanité en une espèce voyageante au plus large sens du terme.
On va venir d'ailleurs à toutes les considérations techniques dans un instant, parce que cet avion a été une révolution culturelle, mais il a d'abord sans doute été une révolution technique.
À une altitude de 10 000 pieds et vous écoutez bien au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Europe 1, 14h, 15h.
Au cœur de l'histoire.
Effectivement, jusqu'à 15h pour le dernier vol du Boeing 747 d'Air France. Vous êtes au-dessus de la France, Franck Ferrand. À vos côtés, Frédéric Gagé, président directeur général d'Air France. Bernard Chabert, journaliste, pilote et président de la chaîne de télévision Aérostar TV, chaîne aéronautique et spatiale. Et Francis Drian, directeur des ventes General Electric, les moteurs qui équipent le 747 et les 777 pour Air France.
Oui, vous aurez compris, Anissa, que j'ai mon propre copilote pour ce vol très spécial d'aujourd'hui. C'est Lorena Martin qui peut nous dire sans doute où nous en sommes. Qu'est-ce que nous sommes en train de survoler en ce moment, Lorena?
Alors, nous sommes au-dessus de Gaillac, au nord de Toulouse, et nous serons à Toulouse à peu près dans une dizaine de minutes.
Formidable. Et après, on va voir survoler le vignoble bordelais. Et ce que nous attendons tous, c'est évidemment la côte atlantique, et puis la Bretagne, le Mont-Saint-Michel tout à l'heure. Là, il va y avoir du monde au hublot, à mon avis, et les plages de Normandie, etc., avant de réatterrir à Paris. D'ailleurs, c'est assez rare de décoller d'un aéroport, de faire plusieurs milliers de kilomètres en vol et d'atterrir dans le même aéroport, Bernard Chabert, hein, vous avouerez que c'est pas banal.
Ouais, ben ça fait partie du privilège qu'on peut aujourd'hui déguster, parce que ça se déguste. Un dernier vol comme ça, c'est quand même un moment fascinant.
D'une certaine manière, c'est un passage de relais aussi, on peut dire ça, Frédéric Gaget. Vous êtes le président d'Air France, je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient. Vous allez bientôt passer la main, si je puis dire, puisqu'il n'y aura plus de Boeing 747 dans la flotte d'Air France. Il en restait 3 hein, jusqu'ici, c'est ça ?
Il en restait 4 et 4, oui. C'est les tout derniers qui partent aujourd'hui. Voilà. Donc, il a été remplacé déjà par des avions de grande taille, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est le 777 construit par Boeing et c'est le 380 construit par Airbus qui sont les plus gros avions de notre flotte et qui sillonnent le monde avec nos 60 millions de passagers chaque année.
Incroyable. Et je rappelle ce chiffre que je donnais pour ouvrir cette émission en vol. 250 millions de passagers sur les Boeing 747 d'Air France depuis le tout premier vol qui était le 6 juin 1970.
C'est l'histoire.
Ouais, voilà, qui a presque 46 ans d'histoire. Alors, nous a rejoint Francis Drian, qui est le directeur des ventes de General Electric. C'est vous qui fabriquez les moteurs de ce monstre.
Bonjour, oui, tout à fait. On fabrique ces moteurs, en tout cas les moteurs sur lesquels nous volons aujourd'hui, c'est le moteur CF6. Qui a en fait lancé l'activité commerciale de General Electric dans les années 70. Et donc le 747 est l'un des moteurs qui nous a permis d'avoir du succès avec ce moteur. Et
on est là à bord d'un quadrimoteur, hein, il faut dire. C'est-à-dire qu'il y a 4 réacteurs sur l'avion.
Oui, tout à fait. Et chaque réacteur a une poussée d'environ 30 tonnes. Donc nous avons 120 tonnes de poussée qui nous propulse aujourd'hui sur ce vol historique.
Ouais, les avions d'aujourd'hui n'en ont plus que 2.
Oui, c'est vrai.
Ça veut dire qu'ils sont moins sûrs ?
Non, pas du tout. Bien au contraire, les moteurs sont beaucoup plus fiables. Et les progrès en termes de design, de la cellule de l'avion, des ailes, etc., permettent de faire voler des avions plus gros avec moins de poussée nécessaire. Oui. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, on a eu moins besoin de poussée. Et donc 2 moteurs suffisent maintenant dans les avions de nouvelle génération.
Ces moteurs, ils ont été conçus, évidemment, spécialement pour un aussi gros porteur. J'imagine qu'à l'époque, on était au milieu des années 60. Hein, les premiers dessins pour ce moteur, c'est 1964. J'imagine que ça devait être un défi presque insurmontable.
Tout à fait. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, historiquement, ces moteurs, c'était des moteurs militaires qui ont dérivés pour lancer l'activité commerciale. Donc, avec des soufflantes plus importantes, plus larges, qui permettent de développer plus de poussée. Et notamment pour le 747, le moteur a été spécifique. Le design a été particulier pour cet avion.
On a vu Bernard Chabert évoluer cet avion techniquement. Les ailes notamment ont changé hein, au fil du temps.
Ah ben, le 747 d'aujourd'hui, la dernière version, celle qui est encore fabriquée aujourd'hui, même si c'est à dose homéopathique, le tiré 8 comme on dit, est un avion qui ressemble au 747. Quand on le voit, on sait que c'en est un. Il a la bosse.
La bosse au-dessus, hein, il faut expliquer. Bon, oui.
Maintenant, d'un autre côté, les ailes n'ont plus rien à voir avec les ailes des tout premiers modèles, les tirés 100, enfin les 747 du début. Les moteurs ont considérablement évolué. Plein de choses ont changé, mais finalement, l'architecture générale est restée la même.
Mais ce 747, il a d'emblée été conçu comme quelque chose de modulaire. Il est possible de le transformer en hangar volant, si je puis dire. C'est important de le dire.
Il y a déjà les versions passagers et cargo, et puis il y a eu même des versions combi à un moment, qui étaient mi-passagers, mi-cargo. C'est un avion extrêmement souple, finalement, malgré ses dimensions. C'est aussi un avion qui sait se poser sur des terrains relativement courts. C'est un avion qu'on voit dans le monde entier, dans des endroits où avant, on ne voyait pas tellement de longs courriers. D'un seul coup, on a vu arriver des 47 parce que, par exemple, il y a un train d'atterrissage qui, à l'époque, est apparu phénoménal.
Pendant très longtemps, quand je dis très longtemps, c'est du début des années 30 à la fin des années 60, lorsqu'on avait des choses particulièrement volumineuses ou surtout particulièrement fragiles à transporter, on préférait le bateau. Et là, grâce au 747, on s'est mis à transporter à peu près tout ce qui est possible de transporter, hein. Y compris de très grosses choses quand même, faut le dire, des avions d'ailleurs.
On y met des avions, on y met par exemple la Formule 1 moderne, ne serait jamais devenue Formule 1 sans qu'on puisse transporter dans un 747, on met un Grand Prix de Formule 1.
Incroyable.
Pour ce qui est des voitures.
Ce qui veut dire que ça permet de faire des Grands Prix à date assez rapprochée, puisqu'on peut transporter les voitures à bord du 747. Hein.
C'est un avion extrêmement souple, la version cargo, hein, et Air France en a eu, la version cargo, c'est un cargo, c'est un vrai cargo.
important, c'est important, Frédéric Gaget, cette dimension cargo, parce que ça n'est pas celle qui saute aux yeux et à l'esprit du public, bien entendu. Nous, nous sommes habitués à être les passagers du 747. Mais lorsqu'on sait que ça devient un avion cargo, on comprend la globalisation de l'économie, tout simplement. Hein. C'est fondamental.
Alors, il y a eu deux facteurs qui ont aidé à ça. Le premier, c'est que c'était la taille de l'avion qui permettait d'emmener des cargaisons et des poids très importants. Et le second, ça a été ensuite le nez ouvrant. Donc, qui lui permettait de faire rentrer dans la carlingue des objets d'une taille très, très, très importante.
Et ça, c'est permis par le fait que le cockpit est repoussé assez haut et assez en arrière.
Et c'est pour
fait.
Ça que, dès le début, dans le dessin de l'avion, le cockpit avait été placé tout à l'avant, mais extrêmement haut sur le fuselage, donc pour permettre la rotation de cette porte de nez, en fait.
Que l'on charge comme on chargeait les bateaux.
Qu'on chargeait un peu comme les ferries, si vous voulez.
Les ferries, voilà.
D'ailleurs, sur les ferries, Bernard, il y a eu des 747 cargo qui avaient permis à un producteur de voitures... Français d'ailleurs,
Peugeot,
qui avait des usines en Afrique et qui rapatriait tous les jours un certain nombre de voitures. Il avait rendu possible cette activité de délocalisation d'une partie de son activité de production, précisément parce qu'il y avait la possibilité de ramener rapidement ce qui était produit ailleurs.
Francis Drian, est-ce que c'est un avion qui est facile à entretenir ? Il y a une maintenance qui est quand même très importante sur le Boeing 747.
Alors, comme dans tous les avions, la maintenance est un élément très important pour la sécurité et la longévité de l'avion. Donc, effectivement, nous faisons la maintenance de cet avion, mais Air France fait la maintenance de ses propres moteurs et Air France est un des leaders d'ailleurs dans la maintenance du moteur CF6 et d'autres moteurs de sa flotte.
Et c'est un sujet qui vous tient à cœur, ça, Frédéric Gaget.
Ça tient à cœur à tous les mécanos qui sont à bord et à tous ceux qui ont travaillé sur le 747. C'était pour les gens de la maintenance avion, Bernard, vraiment le royaume des mécaniciens avions. Imaginez qu'il y a plus de 4 millions de pièces pour construire ou pour entretenir un Boeing 747, des moteurs qui marchent très bien mais qui sont d'une extrême complexité. Donc tout ça est passionnant pour les ingénieurs, pour les mécaniciens. Et qui ont vu chez Air France partir le 747 avec aussi, je crois, comme les pilotes et comme les personnels de cabine, une vraie nostalgie, parce que pour beaucoup, ça a été une partie importante de leur vie.
Je crois que c'est le moment ou jamais de leur rendre hommage, là, et de leur donner un très grand coup de chapeau pour ces 45 années de service à bord du Boeing 747, dont on aura bien compris, Bernard Chabert, qu'il a démocratisé les voyages et qu'il a globalisé l'économie en quelque sorte. Vous parliez des voitures de Formule 1 il y a un instant. On peut dire aussi que si nous avons sur nos tables, et ça n'est pas forcément toujours une bonne chose d'ailleurs, des fraises à Noël, c'est peut-être aussi grâce au Boeing 747.
Hein. Oui, c'est grâce au 747 et à la disponibilité de l'avion, et je reviens à la maintenance. Parce que les avions modernes, le 747, c'est aussi un des premiers avions qui a fait entrer l'exploitation du transport aérien dans des cadences qui sont absolument phénoménales. Un avion comme ça, normalement, il passe combien d'heures par jour en l'air ?
14-15 heures.
14-15 heures tous les jours. Ouais, tous les jours. Les périodes de maintenance sont extrêmement réduites. C'est absolument ahurissant quand on connaît les problèmes domestiques qu'on peut tous avoir avec les divers matériels qu'on a à la maison, de penser qu'un monument pareil arrive à passer 14 heures par jour en vol chaque jour que Dieu fait.
Voilà le mot que nous cherchions depuis le début de cette émission, un monument. Un monument volant auquel on dit adieu à Air France aujourd'hui, Frédéric Gaget, mais en disant bonjour à tous ceux qui lui succèdent maintenant.
Ah, vous savez, la nostalgie est aussi faite pour préparer le futur. C'est donc ça. Il y aura des nouveaux avions, des nouvelles générations s'en occuperont. Mais aujourd'hui, vous aviez raison, c'était un grand coup de chapeau à tous ceux qui ont travaillé sur cet avion, dans cet avion, pour nos passagers.
Bravo et bon vol.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est un retour aux origines de circonstances, Franck, puisque vous êtes à bord du 747 d'Air France pour son dernier vol. Et c'est une question de Luc. Pourquoi les portes d'accès d'un avion, Franck, sont situées à gauche de l'appareil ?
Vous savez, Anissa, les pilotes ont toujours embarqué à gauche. Il faut vous dire, et c'est peut-être l'explication, je ne suis pas sûr que ce soit l'explication, mais ça pourrait l'être, que pendant la Première Guerre mondiale, au moment de la naissance de l'aviation de combat, les premiers avions d'attaque étaient pilotés par des cavaliers. Tous nos premiers grands aviateurs de guerre étaient des cavaliers. Et donc, dans la cavalerie, on avait l'habitude de monter à gauche, bien entendu. Et donc, on en a fait autant avec les avions. Les pilotes ont pris l'habitude de monter à gauche, ce qui fait qu'assez vite, dans les premiers modèles d'aviation commerciaux, on a installé les portes à gauche, même si d'ailleurs vous avez des portes portes des deux côtés, mais souvent on utilise les portes de droite pour faire monter le fret ou les choses techniques, et à gauche, ça reste la porte pour accéder à l'appareil. C'est une tradition, c'est une habitude que l'on doit peut-être, que on aimerait croire en tout cas qu'on doive cela à la cavalerie. Je vais demander à Lorena pour la dernière fois où nous sommes. D'ailleurs, les nuages sont en train de s'éclaircir là, et on voit beaucoup mieux ce qui se passe au sol. On est au-dessus
d'Agen. On approche de la région bordelaise.
Voilà, alors maintenant on va laisser nos auditeurs. Nous allons continuer, nous, ce voyage. Bientôt la côte atlantique que nous attendons avec impatience. Merci beaucoup à toutes les équipes techniques d'Europe 1 qui ont vraiment fait un travail extraordinaire. Merci aux équipes d'Air France qui nous ont reçus comme des pachas. Et je vous donne rendez-vous demain, bien sûr, pour un grand portrait. Et lundi à 14h pour la première de nos émissions. C'est toute une série que nous allons faire pendant une semaine entière sur les énigmes royales. Et croyez-moi, il y aura du mystère au programme la semaine prochaine sur Europe 1.
Nous avons été heureux de vous accueillir à bord et espérons que ce vol vous a été agréable. Nous vous remercions d'avoir choisi Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et espérons vous revoir prochainement sur nos lignes.